de transition ouverte par la chute de Bachar el-Assad. Et maintenant, RFI Soir, spécial Mayotte.
Merci, c'était le journal de Gilles Moreau.
Radio G. www.radio-g.fr.
Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi, un VTC ou un transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée.
Merci Axel, mon héros.
Utilisez un éthylotest avant de bien rentrer. Ou alors, on attend le lendemain pour bien rentrer.
Oh, trop moelleux ton canapé.
Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Chaque année, l'association Prévention Routière se mobilise pour des routes plus sûres. Pour soutenir son action, rendez-vous sur préventionroutière.asso.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
C'est mercredi, il est 18h10, je me sens bien, j'ai comme un bon feeling avec vous, auditeurs, auditrices de 101.5 FM, de Topette et de Radio G. 50 minutes qui s'ouvrent devant nous pour vous partager un peu d'actualité et d'agitation culturelle, locale aussi. Je préfère insister sur le local car le culturel, on n'est pas sûr pour 2025, donc on essaie d'adapter la ligne éditoriale. Demain, nous serons justement très local puisqu'on sera avec la commune de Loire-Authion, partenaire de l'émission depuis maintenant quasiment 3 ans. Et ce soir, on sera ni l'un ni l'autre, on sera local bien évidemment, mais on sera surtout historique, patrimonial. On sera dans les archives avec Sylvain Bertholdi, le directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers. Alors ça se trouve où? Ça se trouve au repère urbain, 35 boulevard du Roi-René, ça vous le savez, et on va parler ensemble de Angers, mémoire d'une ville de 1850 à 1950. Donc ça fait combien de temps tout ça, Nolwenn?
Ça fait beaucoup de temps.
Ça fait 100 ans, tout simplement. Sylvain pourra nous expliquer pourquoi cette période précisément. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? Il pourra aussi en profiter pour nous reparler des premières fois à Angers. Ça, c'était il y a 2 ans. Presque 3 maintenant. Et puis voilà, tout simplement. Nolwenn, justement, t'avais la parole tout à l'heure. On sera en reportage avec toi. On va aller où?
Exactement, on va aller voir le marché de Noël, faire un petit tour, se balader, aller voir le Père Noël aussi.
C'est vrai, t'as vu le Père Noël?
J'ai vu le Père Noël et j'ai eu la chance de l'interviewer, c'était incroyable.
Ça a dû être une expérience fantastique, effectivement. Ce sera autour de 18h30, juste après la chronique d'Adrien qui ne capte rien. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va et vous?
Alors l'autre jour on était en Belgique je crois, on est reparti quelque part entre temps. On fait quoi ce soir avec toi?
Ce soir on va parler de reportage animalier.
Ok, reportage animalier avec Adrien qui capte rien autour de 18h35. Donc, en fin d'émission, on aura le synopsis avec Mathis et Emilien. On va s'intéresser au film Conclave. Et puis voilà, Topette, c'est parti tous les soirs, 18h10. On y va.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et juste avant d'accueillir Sylvain Bertholdi, on va régler notre ardoise avec toi, Sarah. On va où ce soir? Eh bien, on va au restaurant L'Ardoise.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Salut mes petits gourmands ! Aujourd'hui, c'est Spotlight sur mon restaurant préféré à Angers, j'ai nommé L'Ardoise. Tout d'abord, le décor magnifique qui mêle vieilles pierres, murs de bouteilles, tables rondes individuelles, banquettes, manches debout, pour nous offrir une atmosphère conviviale, chic et animée. L'accueil est toujours très chaleureux et attentionné, et le chef vient vous détailler et vous explique la carte avec tout son savoir-faire et son amour de la cuisine. La plus grosse difficulté ici, vous l'aurez compris, va être donc de faire un choix. La mise en bouche déjà envoie du lourd. Focaccia avec une crème d'anchois et citron vert. C'est dingue, tellement goûteux, franc et gourmand. Franchement, vous en connaissez beaucoup, vous, des restaurants où dès la mise bouche, on découvre et on est emporté? Moi, non. on opte pour 3 antipasties à partager. Et c'est ce que j'aime tellement à l'ardoise, plein d'entrées alléchantes, et donc on peut en déguster plusieurs, picorer, piocher, découvrir et partager un vrai moment convivial autour d'un moment apéritif. Le premier, pulled pork, présenté comme un vitello tonnato. Un pur régal. La crème avec l'anchois, les croutons, les pickles, les olives. Chaque bouchée est un orgasme culinaire. Les goûts sont tellement directs, forts, mais maîtrisés. Tout s'accorde à merveille. Seconde entrée à partager, les barbadians. Barbaquois ? Barbadians. Sorte de ravioli originaire de Menton, réalisé avec les restes de bœuf et de petits légumes, le tout frit. Hyper moelleux et parfumé, un vrai bonheur, incroyable. Belle découverte de cette spécialité du sud de la France, cuisine si généreuse qu'on retrouve trop peu chez nous. Troisième recette à partager, ricotta et chou rouge, croquant et bien relevé grâce à la coriandre, sublime et très frais. J'hésite longuement pour le choix de mon plat et le chef arrive à me convaincre de goûter son cacioco. Oui, je me suis entraînée une soirée entière pour réussir à le prononcer du premier coup sans l'écorcher. Tentacule de poulpe grillé à la perfection et super tendre, moule dans un bouillon avec une base de vin, poisson, tomaté et bien relevé grâce au enduja. Splendide. C'est original, généreux et tellement goûteux. Le chou farci et foie gras sont tout autant délectables. Un vrai jus corsé au vin rouge et faites-moi confiance, on reconnaît un bon chef à ses sauces. Et là, à chaque sauce, on veut encore et encore déguster. Et surtout, on sauce avec son pain jusqu'à la dernière goutte. Ici, on découvre à chaque bouchée de nouvelles saveurs. Ici, on en prend plein les papilles. Ici, ça cuisine avec passion, avec amour, avec talent. Ne cherchez plus, c'est là-bas que vous devez aller. L'Ardoise est au 7 Place Molière à Angers, ouvert du mardi au samedi midi et soir. Et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Eh bien, merci beaucoup, Sarah. Maintenant, on a faim. On va surtout, dans un premier temps, remonter le temps. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2024. Il est 18h16. Et ben, on va revenir en arrière. Donc, on va laisser Nolwenn faire le calcul. Si on revient en 1950, ça nous fait combien d'années en arrière?
Ça nous fait, 50 et 24, 74 ans.
Et voilà. C'est pour rattraper tout à l'heure. T'avais effectivement pas entendu les chiffres. On accueille notre invité ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Monsieur Sylvain Bertholdi.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers, avec votre bureau situé au 35 boulevard du Raronnet au sein du repère urbain. Alors repère urbain, peut-être qu'il est bon de repréciser qu'il y a Angers Patrimoine, l'Artothèque et les archives patrimoniales. Donc c'est le cœur de l'histoire d'Angers d'une certaine façon, c'est là qu'on travaille. Hein.
Et nos bureaux sont face au Jardin des Beaux-Arts. L'entrée est dans le Jardin des Beaux-Arts, c'est un lieu vraiment éminemment patrimonial et culturel, puisque vous avez de l'autre côté la bibliothèque, le musée, la galerie Toussaint, et le jardin lui-même était un jardin fruitier où l'on a inventé la poire, la doyennée du comice au XIXe siècle. Donc, comme vous voyez, c'est un lieu historique. Et nous avons là 1600 mètres d'archives anciennes qui remontent à 1367. Le reste est dans un magasin dans la ville, ailleurs, puisqu'on n'a pas la place de tout mettre. Pour les archives, on parle de magasin d'archives, d'ailleurs. Ce sont les archives administratives de la ville. Et puis aussi toutes les archives privées collectées que les Angevins peuvent nous donner, ou que l'on peut acheter éventuellement, les archives photographiques, on va en parler, des objets de vie quotidienne. Donc toute la vie angevine est renfermée aux archives, enfin on essaye d'avoir le maximum de choses.
Ça y est, on est déjà plongé au cœur des archives et puis de l'histoire d'Angers. On a juste cité un lieu et Sylvain nous a fait quasiment presque tout son historique. On va en parler puisque justement des lieux, il va en être question dans cet ouvrage Angers, mémoire d'une ville sur une courte, relativement courte période, en tout cas, 1850-1950, ça fait 100 ans, Nolwenn. Avant toute chose, Sylvain, votre mission comme directeur des archives patrimoniales, en quoi ça consiste? Il faut répertorier, collecter, redistribuer, oui. Exposer?
Vous dites bien, bah vous avez presque tout dit, hein. Oui, la collecte, la conservation, la communication, la restauration des archives, leur exposition. On fait 3 expos par an en salle de lecture, on a ce que l'on appelle les vitrines des archives, et donc en ce moment vous avez des vitrines sur le vin en Anjou, avec aussi des objets, un verre à vin d'Anjou monstre qui contient une bouteille entière de vin d'Anjou, qui peut contenir une bouteille. Voilà, on a des activités en direction du public qui sont assez nombreuses, des visites des archives. On travaille avec les classes du patrimoine, d'Angers Patrimoine, pour accueillir des enfants, des classes de primaire notamment. Donc c'est très varié.
Donc ça, ce sont pour les archives patrimoniales. Donc on est bien spécifique à la ville d'Angers, hein, je précise, parce qu'il y a aussi les archives départementales qui sont à Angers, mais qui concernent donc, comme le nom l'indique, le département en entier. Si on s'intéresse justement à ces archives, c'est quoi en fait une archive ? C'est un document, c'est un papier, c'est un tableau, c'est une photo ?
Devant vous, vous avez des archives. Déjà, vos notes de ce matin sont des archives. Alors voilà, ça peut remonter le temps comme ça. On en a conservé sur parchemin, donc de 1367, qui sont des pièces de compte. Alors les archives sont sur tout support, papier bien sûr, le numérique aujourd'hui. On a beaucoup de photographies ou de documents numériques. Bien sûr, tout ce qui est plan, documents figurés, les photographies, les dessins, les cartes postales. Des affiches, on a une très belle collection d'affiches, à peu près 7000, sur Angers uniquement. Vous avez vraiment tous les supports que l'être humain a pu inventer et qui sont conservés aux archives et qu'on essaye de conserver dans les meilleures conditions.
Et justement, pour parler du numérique, aujourd'hui, imaginons un site internet d'une association angevine ou que sais-je, qui pourrait être une archive. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire de conserver numériquement ? On peut archiver ce qui existe en physique, mais du coup, ce qui est numérique de base, comment on travaille ?
En fait, on a des dossiers numériques. Tout réside aussi dans le nommage pour les retrouver par la suite. Évidemment, il faut qu'ils soient bien nommés, bien étiquetés. Ces dossiers électroniques, on les verse sur des disques durs importants, externes, on les réplique. Donc, il y a tout un système d'archivage. Nous sommes un peu moins touchés par ce genre d'archivage, sauf pour, comme vous dites, là, un exemple des associations. L'année dernière, j'ai eu les archives de l'association Éclat, Échange culturel angevin, à tout point de vue, donc de Jocelyne Renaud, qui avait fondé cette association très active, et qui m'a donné une partie de ses dossiers sur clé USB, donc que nous avons transféré sur nos disques durs de conservation.
Sans aller beaucoup plus loin, pour rester un petit peu dans cette question, nous, Radio G, c'est un acteur du territoire depuis maintenant 40 ans. Les archives audio, est-ce que ce sont aussi concernés par... Est-ce qu'on a ce genre de supports qui sont...
Oui, ça pourrait. Oui, tout à fait. On en a d'ailleurs. Des archives qui m'ont été données l'an dernier aussi. C'est une année faste, décidément. Des archives d'un journaliste angevin. Charles Dutilleul, qui était à FR3, au Courrier de l'Ouest, et qui a interviewé, par exemple, Hervé Bazin lors du tournage de Vipère au Point. Donc ça, ce sont des archives qu'on a numérisées récemment.
Voilà, ça c'est aussi tout l'enjeu, c'est de saisir l'instant de l'archive, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait même d'écrire à l'instant T sur un bout de papier, c'est d'anticiper que ça deviendra une archive. Il faut aussi faire ce travail de sélection, j'imagine.
De sélection, de classement, oui. Donc on ne conserve pas tout, il y a beaucoup d'éliminations, mais les éliminations les plus importantes, c'est pour les archives administratives contemporaines, où là, normalement, après le cycle de vie, qui est en gros de 30 ans, on élimine 90% des archives quand même.
Oui, c'est bien.
J'ajoute juste une précision. Donc nous sommes le versant archives patrimoniales et il y a le versant archives vivantes qui se trouve à l'hôtel de ville, autrement dit les archives contemporaines, qui commence dans les années 80, on a choisi cette césure, et donc qui collecte toutes les archives de la ville et de ses satellites.
Donc il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle rentre dans le giron des archives patrimoniales. Voilà. Nolwenn et Adrien, est-ce que ça vous fait réagir cette fonction, ce point d'archiver comme ça les villes Nolwenn?
Moi j'adore regarder, des fois je vais sur Google Maps voir comment Angers c'était avant, pour voir, je trouve ça fascinant. On voit que c'était complètement un autre monde et on voit toute la transformation. C'est vraiment génial de voir ça.
À Google Maps, ou pour aller encore plus loin, du coup, il y a ce livre dont on va parler maintenant.
Et puis sur notre site internet, portail archives en ligne, là vous avez des milliers de photographies sur Angers. des vues aériennes aussi. Et puis, vous avez un portail historique avec des chroniques, des agendas, des almanachs, la liste des maires d'Angers, leurs portraits. Enfin, il y a beaucoup de choses. Un dictionnaire des rues d'Angers qui est très utile.
Et ben voilà, Nolwenn a trouvé une nouvelle occupation. Adrien, d'un tout petit mot.
Je trouve ça très chouette. Je vois quand vous feuilletez le livre, je vois un peu de loin les photos et ça rend vivant l'histoire. Ça fait vraiment voyager. C'est chouette.
Ça, c'est une belle transition.
Excellente, je trouve, parce que en fait, dans le livre, il n'y a pas simplement des murs du patrimoine ancien, mais il y a les Angevins d'autrefois.
Voilà, c'est ce qu'on appelle dans les cartes postales animées. Justement, on va en parler maintenant sur le 100.5 FM. Mais avant tout ça, petite pause musicale. On écoute ce bruit de Super Leon. Super Léon sur le 101.5 FM, à l'écoute de Topette qui dans quelques instants ne comprendra plus rien avec Adrien, et puis on ira même faire un petit tour sur le marché de Noël avec Nolwenn, mais avant tout ça on retourne du côté des archives patrimoniales, donc avant 1980.
Topette sur Radio G.
Puisqu'on est toujours avec vous, Sylvain Bertholdi, donc c'est bien ça, les archives patrimoniales sont l'ensemble, le recueil de l'ensemble des objets, des documents qui émanent de la ville d'Angers, hein, avant les années 1980. Oui. Et justement, alors là, on va parler du livre qui concerne la période très précise 1850-1950, votre dernier ouvrage qui s'appelle donc Angers, mémoire d'une ville, avec, Adrien le stipulait tout à l'heure, déjà des éléments visuels assez marquants puisqu'on a beaucoup de photos. Et juste avant la pause musicale, on précisait même que ces photos, c'était pas juste des monuments, ni des objets, mais bien des personnes, des moments de vie aussi. Et justement, l'ouvrage est découpé comme ça avec les grands moments de la vie des Angevines et des Angevins de l'époque. Je commence à faire la présentation, mais je vais peut-être laisser l'auteur la faire sur la présentation de cet ouvrage, Sylvain.
Oui, alors en fait, le but, c'était de ne pas faire un énième ouvrage de cartes postales, parce que les cartes postales, on les connaît bien, il y a déjà eu beaucoup de publications très intéressantes sur le sujet. C'était de publier cette fois-là des photographies inédites, uniquement des photographies. Et donc de remonter le plus haut possible dans l'histoire de la photographie, dans ce qui est conservé. Et donc, ce sont les éditions Sutton à Tours qui m'ont proposé un livre sur ce thème de la ville à Angers autrefois, et uniquement avec des photographies en noir et blanc. Donc, ils y tenaient beaucoup à ce que ce soit vraiment des choses inédites. Et donc, ça a été possible puisque le livre est aussi, c'est le deuxième but, un résumé, une sorte de synthèse de 35 années de collecte photographique aux archives. Donc, on a des photos qui viennent de tous horizons, des services de la ville, des particuliers, par par achat, par don ou par prêt, et de grands collectionneurs qui sont vraiment fondus de photographies, qui en achètent beaucoup et qui ensuite nous prêtent les documents pour numérisation, si bien que ça fait comme pour eux comme une sauvegarde et pour nous un enrichissement formidable.
Donc ces conditions de photographie en noir et blanc, et que ce soit des photographies, conditionnent aussi la période 1850-1950. Ça veut dire que après 1950, on est peut-être plus dans la couleur, et 1850, ce serait la première photo qu'on ait d'Angers, par exemple.
Alors, pas tout à fait, mais c'est presque ça. Les premières photos d'Angers, elles datent de 1839. On les a perdues malheureusement, enfin elles n'ont jamais été conservées. C'était des opérateurs itinérants de daguerréotypes qui passaient dans les villes et qui faisaient un cliché par-ci, par-là. Et on sait qu'il y a eu des vues prises depuis l'hôtel de ville. Mais malheureusement, elles n'ont pas été conservées. On a un amateur qui est Paul-Michel Ossard, qui a pris des photographies dans les années, au début des années 1840-42. Celles-là ont été en partie conservées. Elles se retrouvent maintenant dans les collections publiques par les aléas de l'histoire du musée d'Orsay. Et ici à Angers, nous avons une copie seulement de daguerréotype, ce qu'on appelle un contre-typage, d'un daguerréotype de la collection du comte de Perrochel, pris en 1849 et qui montre le pont de la Basse-Chaîne, qui était alors un pont suspendu et qui s'est écroulé le 16 avril 1850.
Donc avant la fameuse catastrophe.
Avant la catastrophe, donc c'est vraiment un cliché, un incunable dans les clichés photographiques. Et à partir de là, eh bien on a des photographies des années 1850. Et dans le livre, donc je présente une photographie de cette période-là concernant la place du ralliement, qui est très intéressante à décortiquer, puisque la plupart de ce que l'on voit sur la photographie a disparu complètement, sauf deux éléments. Alors ça, je vous le laisserai chercher.
Ça, c'est du teasing. Qu'est-ce que permet la photo? Parce que c'est vraiment un instant T. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce support pour ensuite aller détailler. Je vois qu'il y a du texte aussi qui permet de contextualiser le. Déjà, on a l'historique oui. de la photo vis-à-vis des archives. Et puis ensuite, peut-être un contexte historique. À quel moment de vie c'était?
Oui, voilà, c'est ça. Alors donc, le but, c'était pas non plus de mettre trop de texte. Donc, j'avais un cadre. À savoir 1000 caractères par exemple pour des légendes. Et puis il fallait aussi des petits textes d'introduction pour les différents chapitres, puisque le livre, vous l'avez dit, est découpé en chapitres thématiques. Et donc j'ai choisi des extraits significatifs de documents d'archives angevins que nous avons soit inédits, soit publiés, et qui montrent par exemple la première chronique sportive publiée à Angers pour introduire le chapitre sur le sport, ou un manuscrit inédit sur des fêtes religieuses en 1871 pour introduire le chapitre prié. Et puis il y a un fil conducteur qui est encore différent et qui lui est photographique. C'est une collection privée qui est la collection de Henri Alain, qui était musicien à la Société des Concerts Populaires. Il était altiste dans cette société, dans cet orchestre qui jouait pour le théâtre. Et donc il était passionné de photographie. Entre 1897 et 1920, il a pris des plaques stéréoscopiques, donc que l'on pouvait voir dans un appareil qui permettait d'avoir le relief avec la vue photographique.
Est-ce que c'est lui qui photographiait il y a une femme qu'on voit, il y a une série de photos
oui.
où il y a une femme, c'est
c'était son épouse, donc sa muse, son égérie. Oui, oui, oui.
On voit sur le pont de Verdun avec encore le Caligny derrière,
voilà.
Les bâtiments qui étaient sur le là
elle,
où il y a
elle se promène. Et il a un regard sur Angers qui est intéressant, qui est original. Il se met en scène lui-même, il se met en scène sur une photographie très intéressante de la Doutre, où l'on voit l'actuelle rue Godard-Fautrier qui n'est que fondrière. On a démoli les vieilles maisons qui dégringolaient la petite colline jusqu'au reposoir du Saint-Sacrement qui se trouve là. Et le photographe, qui a laissé satisfait de sa prise de vue, pose en chapeau melon devant son appareil. Donc ça, c'est une très bonne vue. Alors, donc chaque chapitre est introduit par des photographies de ce passionné. Et puis, il a droit à un chapitre spécifique, son regard sur Angers. Et aussi un chapitre sur sa famille, où j'explique d'où il vient, ce qu'il faisait, comment il vivait. Et donc, où on le voit d'ailleurs en action, avec donnant des leçons de musique à des enfants, par exemple.
Tout à l'heure, hors antenne, on évoquait le regret de l'ancien cirque-théâtre qui avait place Molière. Est-ce qu'au travers de ces photos, ou globalement au travers des archives patrimoniales, il y a quelque chose, un élément du patrimoine urbain d'Angers que vous regrettez, que vous auriez aimé connaître ou qui aurait mérité de rester? Alors le pont suspendu, malheureusement, par exemple, ça aurait pu être un bon exemple, ou les maisons du Caligny, justement.
Ah, je dirais plutôt des monuments comme le cirque-théâtre qui aurait été une salle de spectacle et une salle musicale très utile parce que son acoustique était merveilleuse. Et puis le Grand Cercle sur le boulevard Foch. Ça, le Grand Cercle, c'était une très belle bâtisse construite par des fonds privés, par des associations de l'époque, des cercles de la bourgeoisie qui se sont réunis pour le construire. Et c'était un bâtiment de style Napoléon III qui était assez grandiose.
Et aujourd'hui, quel élément du patrimoine urbain d'Angers mériterait ou a un haut potentiel justement pour l'histoire suivante? On sait que par exemple la mairie d'Angers, l'hôtel de ville, a beaucoup été décriée de sa modernité, mais aujourd'hui finalement...
Oui, elle est bien acceptée, heureusement d'ailleurs, hein, parce que comme elle date de 1980, on a eu le temps de s'y habituer. Non, je dirais que le programme Imagine Angers va laisser des bâtiments qui vont marquer la ville comme des signaux, hein. On a la tour Type sur le plateau des Hauts-de-Saint-Aubin, mais il y a aussi Arborescence que l'on voit de loin. Quand on se promène sur les murailles du château, sur le chemin de Ronde, on voit bien Arborescence. Et on aperçoit un peu aussi Métamorphose, qui lui va être un signal marquant pour Saint-Serge. Ça, ce sont les monuments de l'avenir. Et puis tout près d'ici, en face, là, par la fenêtre, on voit la future ferme urbaine, avenue Montaigne.
Voilà, comme ça, tout le monde sait où est Radio G précisément, 3 rue de la Rame. Comme ça, vous avez l'adresse. Nolwenn, justement, toi, t'as été arborescence, hein, tu abondes dans ce sens. Tu penses qu'il y a un haut potentiel patrimonial historique ensuite?
Bah oui, parce que c'est un bâtiment qui a une forme originale. Je pense pas qu'il y ait d'autres bâtiments en forme d'arbre comme ça sur Angers. Donc forcément, ça va rester. En plus, c'est un bâtiment qui est très grand. Il est imposant, on le voit. On peut voir que lui quand on est en bas du boulevard.
Sylvain Bertholdi, on reste ensemble, on conclura cette émission dans quelques instants pour dire où est-ce qu'on peut se procurer Angers, mémoire d'une ville, 1850-1950, les derniers éléments importants à retenir à propos de cet ouvrage. Avant tout ça, on va faire un petit détour avec toi Adrien par ta chronique, tout simplement, ça s'appelle Adrien capte rien.
Adrien capte rien, dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Bonjour, ouais, moi il y a un truc que je capte pas en ce moment, c'est comment font les réalisateurs de films animaliers pour passer inaperçus. C'est pas toujours facile de trouver des idées de chroniques, hein. Non, vous voyez ces reportages qui passent le mardi après-midi, genre sur la migration des gnous. Personne ne regarde ces reportages, à part les intermittents du spectacle qui ont la gueule de bois un mardi après-midi. Et il y a des gens qui produisent ces reportages. Il y a des caméramans, il y a des perchistes pour prendre le son. Ça veut dire qu'il y a des gars qui ont fait 5 ans d'études de journalisme, qui ont fait un prêt étudiant sur 10 ans, qui ont payé 30 000 balles de frais d'inscription et qui finissent perchistes de gnous. Mais il y a pire. Moi, hier, j'ai regardé un documentaire sur les mulots au fil des saisons. Ça veut dire qu'il y a un caméraman qui a suivi une famille de mulots pendant un an sans se faire remarquer. Et t'as intérêt à bien réussir ton casting, parce qu'imagine ton mulot, il meurt au bout de 8 mois, tu dois tout recommencer. D'ailleurs, je me demande comment ils savent qu'ils suivent toujours le même mulot, parce qu'il y a rien qui ressemble plus à un mulot qu'un autre mulot, à part Éric Zemmour peut-être. Et je me demande aussi comment ils rentrent la caméra dans le trou du mulot, enfin, le terrier, c'est comme ça que ça s'appelle, le mot approprié. Il est tombé sur un mulot sympa quand même, parce que c'est petit, un trou de mulot, et ils sont nombreux dedans. Dans un trou de mulot, il y a Jean-Pierre Mulot, il y a Marie-Christine Mulot, et il y a leurs 14 enfants. Alice Mulot, Thomas Mulot, Camille Mulot, Elodie Mulot.
Tu vas tous les faire là?
Julien Mulot, Clara Mulot, Nathan Mulot, Léa Mulot, Maxime Mulot, Sophie Mulot, Hugo Mulot, Laura Mulot, Lucas Mulot et Pierre-Benoît Mulot. Et là, il y a un gars qui fait 130 fois leur taille et qui leur dit, alors qu'il parle même pas mulot, il leur dit « Ayez l'air naturel ». Parce que les mulots dans le reportage, ils font comme s'il y avait personne qui les regardait. Ils regardent pas la caméra, les mulots. Quel talent. Et on les filme dans tous les moments de leur vie comme ça pendant un an. Et c'est long, un an. Il y a forcément un moment où Jean-Pierre Mulot, il a envie d'aller mordre le caméraman avec ses petites dents de mulot. Genre, mois de novembre, le trou de mulot est inondé, il fait 4 degrés. Les monsieur et madame Hulot sont sans nouvelles de Sophie, Maxime et Léa depuis deux jours. Le frigo est vide. Et là, t'as le caméraman qui dit avec sa petite voix de caméraman à la con, il dit « Monsieur Hulot revient bredouille de la chasse aux vers de terre. À son retour, une mauvaise nouvelle l'attend. Un pangolin a mangé trois de ses enfants. » Il y a toujours un moment un peu dramatique, comme ça dans les documentaires animaliers, où on passe de love story à complément d'enquête. Et là, monsieur Hulot, il sort de ses gonds. Il est là et dit « Éteins ta putain de caméra !» Et le caméraman, il continue parce que il a un reportage à boucler. Et surtout, il comprend pas le Hulot. Il continue « Parviendra-t-il à maintenir sa portée en vie jusqu'à la fin de la saison des amours ?» Alice Hulot, Thomas Hulot, Camille Hulot, Élodie Hulot, Julien Hulot, Clara Hulot, Nathan Hulot, Hugo Hulot, Laura Hulot, Lucas Hulot et Pierre-Benoît Hulot parviendront-ils à garantir la descendance de Jean-Pierre Hulot et Marie-Christine Hulot ? Enfin, tout ça pour vous dire, Pierre-Benoît, que dans le monde du journalisme, vous n'êtes pas le pire des imposteurs. Joyeux Noël !
Arrêter d'être sympa et d'embaucher des chroniqueurs qui me renvoient tout ça. Voilà, je suis un mulot maintenant ce soir. Adrien capte rien. On te retrouve pas dans deux semaines, mais l'année prochaine, au mois de janvier 2025 dans Topette. Il a eu peur, il a cru qu'il était viré pour cette blague du mulot. Mais en attendant, t'as peut-être des dates aussi concernant tes activités de stand-upper.
Je connais pas du tout mes dates, mais du coup, sur mon site adriencoron.fr, il y a mes dates.
Voilà. Il capte rien, même pas son site. Merci beaucoup, Adrien. Et maintenant, on va faire un petit détour par la place Molière, puisque Nolwenn a été rencontré le Père Noël.
Je pense qu'on va faire tous les manèges. Et puis voilà, un petit peu de tartiflette, un peu de vin chaud, des churros.
Ça résume bien le marché de Noël. Il est à peine 15h et les allées sont déjà bien pleines sur la place du ralliement. Je vois les guirlandes qui brillent sur les chalets, qui sont tous très bien décorés d'ailleurs. Parmi les commerçants, on retrouve de nombreux producteurs locaux et certains sont labellisés produits d'Anjou, comme Nathalie.
Je vends mes savons que je fabrique moi-même dans notre atelier de Cholet, que vous trouverez en coffret, en petites pochettes, les petites pochettes Secret Santa, par exemple.
Pour certains, c'est effectivement l'occasion de préparer les cadeaux, comme Louise, Charlotte, Aloïs et Nina, qui sont venus se promener entre deux cours.
On organise un Noël entre amis et du coup, on s'est dit qu'on allait acheter nos cadeaux ici.
On a acheté une bague chez un artiste.
Là, on était au stand saucisson, donc bon...
C'est sûr que les stands de nourriture, ça fonctionne plutôt bien. On voit une petite file d'attente devant chacun d'entre eux, mais les stands de boissons, ça tourne aussi bien. Le vin chaud, évidemment, mais aussi le rhum local même.
Sur le stand, on a plusieurs recettes de rhum arrangé.
Yann représente la marque Noire, un artisan de Brin-sur-Lothion qui fabrique du rhum arrangé.
On a plusieurs parfums avec des recettes locales, telles que le concombre menthe ou la fraise tonka. Le rhum, tout le monde aime ça, c'est un peu en vogue depuis quelques années, mais le porte-monnaie rappelle aux amateurs de rhum quand même de faire attention.
Tous les commerçants le remarquent depuis quelques années, les acheteurs font attention à leur budget. Les vendeurs font le même constat sur la place Molière. D'ailleurs, là, on vient d'arriver sur la place et je dois dire qu'elle est plutôt déserte. On compte les clients sur les doigts de la main.
On travaille en direct avec des artisans balinais.
Estelle est vendéenne et elle est venue s'installer dans l'un des 10 chalets de la place Molière.
Alors, on a effectivement des gammes de produits, mais ce qui est important, c'est qu'on a pour toutes les gammes de prix. On propose des petits savons à 4 euros. Après, effectivement, il y a des gammes de produits un petit peu plus chères, mais on propose tout ce qu'on peut proposer, mais que de l'artisanat.
Est-ce que les gens compte maintenant quand ils achètent au marché Noël? Est-ce qu'ils font plus attention qu'avant?
Bien sûr, mais ça, c'est pas que de cette année. On va dire que c'est depuis quelques années. Les gens font attention. Et je trouve que c'est important de proposer pour tous les budgets.
Et est-ce que vous êtes un petit peu excentré du ralliement? Est-ce qu'il y a quand même du passage? Il y a quand même de la clientèle, une foule qui vient?
Non. Vraiment, on s'inquiète.
Et qu'est-ce qui manque, selon vous, pour que les gens puissent venir?
Alors, ça manque d'animation, le sapin, il est très très excentré, et puis voilà, ça manque cruellement de passage.
C'est vrai que l'affluence n'y est pas, quoi, comparé aux autres places.
Lou Salvi, vendeur de gaufres sur la place Molière, confirme.
Tous les Angevins sont assez surpris, en fait. Pour la plupart, ils tombent un peu par hasard sur nous, quoi, parce qu'on est un peu isolés, quoi, du reste de la ville, quoi. Il y a un gros problème de communication par la mairie et la société qui nous loue les chalets.
La clientèle n'est pas toujours au rendez-vous, mais les commerçants gardent quand même le sourire.
Gardent l'espoir de voir les gens arriver.
Gaël tient un stand de saucissons sur la place Molière.
Malgré tout ce qui nous
nous arrive, on est là pour vous accueillir avec la bonne humeur, la joie, et on reste positif. Et en plus, vous allez être tranquille parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde, les familles, vous pouvez venir, on sera là pour vous accueillir.
Là, on est remonté sur la place du ralliement et dans la file d'attente pour m'acheter un petit cornet de chichi, j'ai croisé un couple venu faire plaisir à leur fille.
Moi, c'est Jérémy.
Et Léa, on est surtout venu faire plaisir à l'enfant. Je pense qu'on va faire tous les manèges et puis voilà, un petit peu de tartiflette, un peu de vin chaud, des churros.
Est-ce que vous avez un chalet préféré sur ce marché de Noël?
Hormis ceux où il y a du sucre, moi j'aime bien tout ce qui est artisanal, les petites fabrications main, les néons sont super beaux aussi là. C'est pour ça qu'on vient aussi, c'est que c'est très beau à regarder.
Et qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous allez aller voir le Père Noël?
Ah, peut-être, il est là, là, sur le marché.
Il est là, il est juste plein Sainte-Croix là-bas au-dessus.
Il y a des chances, elle a été sage aujourd'hui là.
Justement, j'entends de l'agitation là-bas sur la place Sainte-Croix. Il est un peu plus de 15h et je crois que le Père Noël vient de débarquer.
Oh, 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 oh. Soyez sage si vous voulez des beaux cadeaux. Oh, oh,
oh. Vous avez eu beaucoup de lettres?
Ah oui, je dois en recevoir encore beaucoup. Tout le monde ne m'a pas envoyé sa lettre encore. Je vous attends.
Après une trentaine de minutes d'attente, les trois enfants et la nièce de Charlène ont pu avoir leur photo avec le Père Noël.
T'as commandé quoi cette année?
Plein de trucs de maquillage et des livres. Des CD et puis plein d'autres choses.
Plus qu'à attendre le 24 au soir pour voir si le Père Noël vous a écouté ou le 25 au matin. Ça y est, on va lancer un autre débat. Allez, bonne journée.
Merci beaucoup Nolwenn pour cette immersion au cœur du marché Noël d'Angers du côté de la place Molière. Et Topette, c'est fini pour ce soir. On va conclure avec notre invité de la soirée, Sylvain Bertholdi. Ça va toujours, Sylvain?
Ça va toujours.
Directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers. Alors, pour comprendre simplement ce que c'est, donc c'est les archives de la ville d'Angers avant 1980.
Voilà, très bien résumé.
Voilà, on vous renvoie vers le début du podcast pour comprendre en quoi consiste ce rôle. Mais surtout, comment découvrir Angers, Mémoire d'une ville, le dernier ouvrage que vous avez commis. 1850-1950, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on découvre dedans et où est-ce qu'on peut se le procurer?
Alors, on y découvre beaucoup d'images, 252 photographies de la ville autrefois, dans la fourchette de date que vous dites, surtout, disons, 1880-1920, avec les Angevins qui vivent devant vous dans de différentes activités de loisirs, de travail ou autres. Donc, ce sont des photographies inédites pour la plupart, donc vous aurez plaisir, j'espère, à regarder. Et donc, le livre fait partie d'une collection en mémoire d'une ville aux éditions Sutton, qui sont des éditions basées à Tours, donc qui ont une belle collection de livres. Et il est donc disponible dans toutes les bonnes librairies angevines, suivant la formule consacrée.
Et qui sont les personnes généralement qui sont adeptes de ce genre d'ouvrage? Il y a un public cible où vraiment tout le monde peut.
C'est vaste. Hein. Oui, tout le monde. Oh, oui, oui, vraiment. Ben, il y a ceux qui suivent mes chroniques dans le Courrier de l'Ouest tous les dimanches et qui attendaient une publication. Donc la voilà. Et puis voilà, il y a tous les amateurs qui se promenant dans les rues se disent tiens, autrefois comment ça pouvait être. Bon, voilà, donc c'est bien d'avoir des photographies, des images. Il y a beaucoup de passionnés d'images anciennes sur Angers, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux.
Et la dernière fois, on avait parlé ensemble des premières fois à Angers, ça c'est l'autre ouvrage qui est toujours disponible, couverture oui. Jaune, tout simplement.
Il y a du jaune, et celui-ci, là, le dernier est bleu.
Et bleu. Alors le prochain, il sera de quelle couleur?
Ardoise. Ah, est-ce qu'il sera rouge?
Il y en a un prochain?
Pourquoi pas?
Pourquoi
ça
pas
peut se faire.
On va essayer de trouver un sujet. Je pense que ça ne manque pas puisqu'on parlait en antenne des milliers d'objets qui existent dans les locaux des archives patrimoniales. Peut-être que ce sera l'objet d'un prochain ouvrage.
Ou peut-être la suite, 1950 à nos jours.
Ah, pourquoi pas? Donc 1980,
c'est un si autre bel album.
Voilà, ça fera 30 belles années encore sur Angers. Merci beaucoup Sylvain Bertholdi d'être passé ce soir dans Topette, directeur des archives patrimoniales. Et donc Angers, mémoire d'une ville 1850-1950, à retrouver donc dans toutes les bonnes librairies angevines. Nolwenn?
Ça fait un très bon cadeau de Noël aussi.
Oui, c'est vrai.
Puis c'est bientôt Noël.
Nolwenn, elle est matrixée Noël, elle revient du marché à l'instant. Donc Adrien?
Je suis très jaloux de ne pas avoir rencontré le Père Noël comme Nolwenn.
Ah, Père Noël Mulot?
Père Noël.
On va se quitter là-dessus. On se donne rendez-vous demain avec la commune de Loire-Authion pour parler de leurs actualités culturelles et en tout genre. Voilà, prenez soin de vous. À demain. Et Topette, on se quitte avec le synopsis quand même, avec Mathis et Emilien qui ont été voir Conclave. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette.
Le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur, avec Mathis et Émilien.
Bienvenue à vous. Ce mercredi 4 décembre à 20h au cinéma d'art et d'essai d'Angers, les 400 coups, nous avons visionné le dernier long métrage d'Edouard Berger, Conclave. Ce thriller intrigant, inspiré du roman éponyme de Robert Harris, explore les crises de confiance, les rapports de pouvoir, ainsi que les conflits idéologiques au sein même de la Maison de Dieu, dans un contexte où la question des couples homosexuels, les questions de genre et les accusations d'abus relatifs à ces sujets forment la Sainte Trinité des grandes dissensions de l'Église catholique. À travers ce podcast du Synops, découvrez notre lecture critique sur le film Conclave, qui nous plonge dans les coulisses de l'élection du nouveau pape. Pour ce faire, un casting armé est proposé par Nina Gold. On retrouve Ralph Fiennes dans le rôle du cardinal Lawrence, Carlos Díez pour le rôle du cardinal Benitez, ou encore Stanley Tucci interprétant le cardinal Bellini, et enfin John Lithgow pour le cardinal Tremblay. Ces informations, vous pourrez comme d'habitude les retrouver sur le site des 400 coups. Émilien, je te laisse désormais la place pour le synopsis. Vera papa mortus est. La traduction, le pape est vraiment mort. D'une crise cardiaque foudroyante, le souverain pontife emporte avec lui de nombreux mystères. Qu'importe. Pour l'heure, la curie romaine s'affaire à organiser le conclave qui élira le prochain pape. Le cardinal Lawrence est chargé de mettre en place l'élection. Réticent au départ à superviser cette tâche complexe, il répond tout de même à ses obligations. Jonglant alors entre toutes les machinations politiques, défaisant les stratégies qui deviendraient satisfaire les ambitions perverses de certains aux idéologies les plus réfractaires, l'intérêt de protéger le visage de l'Église catholique, jusqu'à lever le voile sur le secret qui viendra chambouler cette élection quasi divine. Les portes massives de la chapelle Sixtine se referment, le monde tourne son regard vers la cheminée à la fumée blanche ou noire, quel est donc l'homme qui deviendra le successeur de Saint-Pierre ? Alors tout d'abord, Conclave, avant d'être un récit profondément dénonciateur d'une église catholique au bord des conflits idéologiques et des crises très contemporaines, c'est avant tout une claque visuelle. Pour ce faire, colorimétrie ponctuée d'obscurité et d'éclats de rouge, accompagnée d'une palette de noir, blanc et gris qui exprime une structure rigide de l'église. Ces coloris sont mis en scène ici à travers d'une part des couloirs sombres et des salles majestueuses, mais aussi par les personnages qui, dans la forme visuelle de leurs émotions, se rapprochent à mon sens à celle des Corleone dans Le Parrain de Coppola ou encore aux habitudes sensibles transmises par De Niro dans Casino.
Quel changement d'ambiance lorsque l'on passe de l'enfer des tranchées de 14-18 où les explosions d'obus, le son à répétition des mitrailleuses et les cris d'assaut à la baïonnette crispent le spectateur tellement à l'ouest rien de nouveau dépeint avec précision et sincérité l'horreur de la Grande Guerre. Edouard Berger a cette fois-ci changé son fusil d'épaule. Visiblement, l'épais mystère de la politique du Vatican aura capté son attention. Conclave est presque aussi haletant à mon sens que son dernier long métrage. Rien de comparable certes, mais tout de même, il y a dans ce long métrage une impression mystique où le poids de conscience est accablant. À voir ces hommes qui ont dédié leur existence à Dieu, s'emmurer pendant un temps incertain pour confier à un seul individu jusqu'à sa mort la directive d'une seule croyance. C'est une tâche qui paraît presque finalement transcendante. Là-dessus, Berger a dépeint avec grande finesse d'un côté la portée liturgique de cette élection et dans la même visée la bassesse d'esprit dont fait preuve l'homme lorsqu'il doit choisir le prochain souverain pontife.
Dans mon cas, j'ai trouvé qu'Edouard Berger, à contrario du reste de sa filmographie, s'adresse avec Conclave à un public religieux. Bien qu'il s'agisse d'un film réussi techniquement et visuellement, il met ici en évidence un contexte très peu exploré et assez méconnu des habitudes collectives en rendant un film religieux très politique et anachronique, où il n'y a pas d'internet, pas de smartphone et pas de moyens de communication modernes. Et surtout d'un film qui illustre le progrès et la tradition au sein de l'Église pendant 2 heures. En bref, c'est un film avec une ambiance très solennelle, portant sur des sujets casse-gueule, épineux et qui peuvent devenir très sensibles pour certains. Surtout qu'Edouard Berger s'arrête pas ici et donne à ce film une ambiance très psychologique, portant l'œil sur le conspirationnisme des différents cardinaux et leur stratégie pour aboutir à leurs propres intérêts.
Personnellement, j'ai toujours été intrigué par les rouages du Vatican. Cet entremêlement entre la chose politique et religieuse est, je trouve, tout bonnement passionnante car elle est paradoxale. À ce titre, 2 ouvrages cinématographiques ont quelque peu sculpté cette vision. Il s'agit de la série The Young Pope et The New Pope de Paolo Sorrentino. Je vous les recommande vivement, puisque Conclave y faisait grandement écho. Tout d'abord, dans un sens plus cinématographique, où le film a été tourné dans les mêmes studios romains, c'est la Cinecittà. Le décor grandiose de la chapelle Sixtine vient de là-bas, justement. Ces décors se reproduisent presque à l'identique. Ça rajoute véritablement une crédibilité et un réalisme à ce long métrage. Et puis maintenant, dans le fond de l'histoire, j'ai pu aussi trouver une correspondance avec ce questionnement sur le dogme chrétien transmis par le Vatican, où l'idée est de faire paraître pour faire croire. Plus précisément, il y a un jeu politique malsain dans cette élection qui se veut providentielle. Les cardinaux vont s'enfermer et se couper du monde afin de laisser leur esprit au théologisme dans une pureté qui les guiderait divinement vers un homme à la hauteur de la tâche. Pourtant, Edouard Berger retranscrit tout le contraire, où la curie romaine s'abaisse à des calculs politiques machiavéliques dans l'optique derrière d'obtenir les bonnes grâces de celui qu'ils éliront pape. En fin de compte, se détachant absolument de leur rôle initial qui est d'être guidé par la voie divine.
Je pense que d'un côté, conclave, tout est parfaitement codifié, que les complots et les révélations tombent une par une. Néanmoins, le spectateur s'y prépare, tout au moins a le temps de s'y préparer. Mais ces 10 dernières minutes, Edouard Berger nous pond un twist qui, en filigrane, est prévisible, certes, mais surtout diablement culotté et très provocateur dans un contexte comme celui-ci, alimentant de rudes débats. Néanmoins, je pense qu'il est impossible de reprocher au film quoi que ce soit à niveau formel, tout au moins pas à mon expertise, ni à son casting terriblement efficace avec un Ralph Fiennes, leader et impérieux aux manettes du Vatican.
Vous l'aurez compris donc, le message de Conclave est avant tout politique. Premièrement, en dépeignant la puissance liturgique d'une élection qui touche à la Providence. Mais d'autre part, vient dénoncer le jeu politique sans scrupule des cardinaux voulant élire celui qui satisferait leur ambition. Ce sont les deux grands éclairages que porte Berger. Cependant, un point n'est pas réellement mis en lumière. C'est celui de l'homosexualité et surtout de la question des scandales sexuels auxquels l'Église fait face depuis des années. Les rapports comme celui de la Commission Sauvé en 2021 relataient des faits accablants d'abus, de pédophilie et d'agression dans plus de 14 pays entre 1950 et 2021. Voici l'affaire du cardinal Barbarin en 2016 qui avait masqué pendant des années les agissements pédophiles d'un prêtre. Tous ces graves scandales viennent affaiblir durablement la crédibilité et la pureté céleste que le catholicisme pourtant cherche à illustrer. Dans Conclave, l'accent est plutôt mis maladroitement, à mon sens, sur la rivalité entre le catholicisme réfractaire et l'islamisme radical. Je ne vous partage pas la scène qui appuie mon propos car ce serait un grave cas de spoil. Toujours est-il que ce point n'est pas représentatif aujourd'hui des principales préoccupations du catholicisme. Je peux bien comprendre que 2h05 ne donne pas la possibilité de pouvoir traiter avec profondeur des sujets aussi sensibles, mais tout de même, ce genre de points ne peuvent pas être ignorés lorsque l'on doit parler de l'Église catholique de nos jours. Le film L'Enlèvement de Marco Bellocchio, sorti l'année dernière, justement, y faisait crûment référence, portant à l'écran ces importantes questions des dérives sexuelles au sein de l'Église.
Et c'est ici que, dans un contexte de dissension profonde au sein de l'Église, entre abus sexuels, rapports de pouvoir politique et stratégie conspirationniste, que le film Conclave fait réfléchir et ouvre au débat sur la fidélité aveugle et impassible des catholiques contemporains, mais aussi de son attractivité.
C'est la fin de notre podcast et de notre analyse pour le moins ecclésiastique sur le film Conclave, signé de l'allemand Edouard Berger. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également, comme d'habitude, pour notre prochain numéro. Je le rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, @lesynopses, tout attaché. Jusqu'ici, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.
Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je trouve que tout est con, rien ne tourne rond à parler vautour. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour.
J'entends plus le chant des piafs. Tu m'aimes, je fais même plus gaffe. Si je suis dingue quand le monde se déglingue, vais-je mal ou bien suis-je normal? Je suis triste et furieux, mais je vais pas chialer. Je vais pas foutre le feu, j'ai peur de me brûler. Je crois plus à demain, et c'est réciproque. Je sais pas d'où ça vient, c'est moi ou c'est l'époque.
Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je trouve que
côtés comptent et ne tourneront à parler autour. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour. Ouais, je sais, ça craint, j'ai le cœur chagrin et la tête sous l'eau. Je cherche le ciel bleu, mais j'en bave un peu quand j'ouvre les journaux. Ouais, laissez-moi vivre dans mon bateau ivre qui t'a déprimé. Je veux des foules en liesse et de la tristesse dans la même journée. Une méchante loi me fait dans mon âme.